6 heures.
Allez Théo, allez Théo, allez Théo,
allez Théo, allez Théo,
allez Théo.
Le dimanche 1er juin a eu lieu dans la commune de Saint-Yn dans l'Oise une course régionale de cyclisme, le Prix de Saint-Yn. Course organisée par le club Compiègne Sport Cycliste. Dory Thierry, vice-président du club, nous présente le Compiègne Club Sport Cycliste.
C'est donc le Compiègne Sport Cycliste, donc c'est un club de Compiègne où on a toutes les catégories FFC UFOLEB, donc des jeunes en école de vélo de 4 ans, 5 ans jusqu'à 13 ans. Après, on a les différentes catégories, donc minime, cadet, donc U15, U17, les Open 3 Access sur lesquels on organise une course aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, avec la mairie de Saint-Yn, en partenariat avec eux, on organise le prix de Saint-Yn, donc dans trois catégories. Course en Open 3 Access, en U17 et U15. Et hier, on a organisé le trophée départemental des jeunes de l'Oise à Venette, où on a servi de support aussi au trophée de l'Aisne et de la Somme, donc toute la journée pour les écoles de vélo. Et là, c'est des épreuves combinées, c'est-à-dire que pour les plus jeunes, les U7 et U9, c'est donc une course, une épreuve de sprint et une épreuve de jeu, de manœuvrabilité du vélo. Et pour les U11, U13 et U15, c'est un cyclo-cross, un sprint et une course de régularité. Et donc on a fait cette organisation-là en partenariat avec la commune de Venette hier.
Alors revenons sur le prix de Saint-Yn, c'est la 100e édition ?
Ah, ça doit être la 5e ou 6e édition qu'on fait ici. On a fait il y a 6 ans en école de vélo. On a dû faire 3 ans en école de vélo. Et là, ça fait 4-5 ans qu'on fait pour les Open 3 Access, U15 et U17.
Combien de kilomètres font les parcours, monsieur ?
Aujourd'hui, les Open 3, ils avaient 84 km. En U17, donc c'est les cadets, donc ils ont 64 km. Et les mini, donc les U15, ils ont 30 km.
Vous êtes vice-président, mais vous êtes aussi commissaire. Quelle est la fonction d'être commissaire dans une course de cyclisme ?
Commissaire, moi je suis commissaire du club de Compiègne. On a aussi le support de deux commissaires de la Fédération française de cyclistes des Hauts-de-France qui viennent nous épauler. Bah, c'est pour faire respecter les règlements, faire les classements. Et s'il y a des litiges, de prendre les décisions pour qu'on respecte les règlements, que les classements soient bien officiels, sans tâche, sans problème.
Open Tour Access, qu'est-ce que c'est ?
Les Open 3, ça correspond à... il y a différentes catégories, donc Open 1, Open 2, Open 3. Donc c'est la troisième catégorie, on peut dire un peu élite par rapport aux catégories. Les accès, c'est plus des gens qui ont un niveau un peu moindre, mais qui peuvent courir quand même avec les Open 3. C'est souvent des adultes ou des juniors surclassés qui viennent courir dans ces catégories-là.
Qui concourt aujourd'hui essentiellement des clubs de l'Oise ?
Aujourd'hui, on a des clubs de l'Oise, on a des clubs de la région parisienne, de la Somme, on a un club de Douai, c'est qui est venu, on a la Nîmes-Pont-Poincaré, donc on a des clubs un peu de partout qui viennent sur nos courses.
Comment se porte, monsieur Doré, le cycliste dans les Hauts-de-France ?
Il se porte bien, mais c'est vrai qu'on voit dans les compétitions qu'il y a moins de coureurs qu'il y a quelques années. Le Covid a causé pas mal de dégâts dans les clubs sportifs et les associations. Et on a du mal à retrouver nos niveaux d'avant le Covid.
Au niveau de la sécurité, comment s'est organisé le prix de Saint-Yn ?
Il faut faire des dossiers. Il faut déclarer la course auprès de la Fédération française au niveau des Hauts-de-France. Après, il faut organiser, il faut faire les dossiers auprès de la mairie, de la préfecture de Senlis pour Saint-Yn. On a tous des dossiers à faire, à compléter et à indiquer le nombre de signaleurs, le circuit, les horaires, tout un tas de choses pour que la sécurité soit faite au maximum sur la course de Saint-Yn. Aujourd'hui, on a 11 signaleurs sur la course avec une voiture ouvreuse, une moto ouvreuse et une voiture derrière pour sécuriser les coureurs. Donc on essaie d'assurer de faire la sécurité au maximum de ce qu'on peut faire.
Sans eux, pas de course.
Allons sans signaleurs, sans commissaire, sans dirigeant, sans bénévole, on ne fait plus de course.
À quelle vitesse roulent à peu près les cyclistes aujourd'hui ?
Ah, les cyclistes, ils roulent à 40-45 km/h pour les plus grands. Après, les cadets, t'en as un peu moins, 35-40, ils font des pointes, mais ça roule, vous voyez, ils ont du beau matériel. Il y a quand même des entraînements de plus en plus pointus, donc ça roule assez vite. Donc le palmarès de la course Open 3 Access, donc le vainqueur c'est De La Haute Simon du Compiègne Sport Cycliste. Le deuxième c'est Morin Villiers-Luis Team Factory. Et le troisième c'est Lenoir Jules du Team Avenois.
Qu'est-ce qu'ils remportent chacun ?
Chacun, ils ont un prix fédé, ils ont eu une coupe et un bouquet.
Allez, ça attaque devant, toujours peloton coupé sinon. À 7 tours de l'arrivée.
Je m'appelle Hugo Canisset, je suis en minime deuxième année au CC du Valois.
Qu'est-ce que vous aimez dans cette discipline ?
J'aime bien les routes, ça roule, on roule vite, c'est jamais le même rythme, donc, et jamais les mêmes coureurs. J'aime bien découvrir des coureurs tout le temps.
Là vous êtes en tenue, qu'est-ce qui va se passer dans quelques minutes ?
Je vais aller m'échauffer avant la course pour faire monter mon cardio. Parce que souvent au départ, en minime, on part vite. Et du coup, si on s'échauffe pas, le cœur il monte trop vite et on est direct dans le rouge. Du coup, c'est compliqué.
Quel est votre palmarès ?
Je suis champion de l'Oise en FFC et aussi en UFOLEP. J'ai gagné 3 courses en FFC. Là, cette saison, je suis à 14 courses et 13 podiums.
C'est votre première participation au Prix de Saint-Yne ?
Oui, c'est la première.
Vous connaissez un petit peu le trajet ?
Oui, je l'ai fait tout à l'heure en voiture, mais là je vais aller le faire en vélo pour revoir toutes les bonnes trajectoires dans les virages et le vent.
Il y a des virages un petit peu ?
Oui, je crois qu'il y a 3 virages. Il y en a un qui est un peu compliqué parce qu'on arrive vite et on le voit pas trop en amont. Après, le reste, c'est des petits virages qui passent bien normalement.
Vous commencez, s'il vous plaît.
J'ai rencontré sur place le maire de la commune, monsieur Jean-Pierre Desmoulins. Bonjour.
Bonjour.
Alors, quel a été votre rôle dans l'organisation de cette course ?
Depuis un certain nombre d'années, la municipalité, pour mettre un petit peu d'attractivité, puis pour permettre aussi aux clubs de vélo de pouvoir continuer et les parents qui ont des enfants de pouvoir exercer la compétition cycliste, donc ils nous sollicitent. Donc j'en parle au conseil, si on est favorable ou non favorable. Puis mon conseil à chaque fois est favorable pour que chaque année, à peu près à cette époque, début juin, cette compétition puisse avoir lieu. En fait, c'est 3 compétitions. Les organisateurs, on prend le club de Compiègne, et eux gèrent l'ensemble, c'est pas nous. Nous, on met à disposition la voirie, les trottoirs, éventuellement notre salle, c'est des besoins.
Depuis une petite heure, vous assistez à la course. Comment ça se passe ?
Ça se passe qu'en fait, c'est la première fois que je ne fais qu'assister. Oui, je vais être honnête avec vous, j'ai une passion qui est la seule passion que j'ai, où j'ai fait la pratique, c'est le cyclisme. J'ai fait beaucoup de compétitions. Maintenant, vu l'âge, j'en fais encore du vélo, plus au même rythme. Hein. En fait, on voit que c'est pas très sélectif, puisqu'ils ont du mal à se détacher, ceux qui tentent de s'échapper. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de côte. À part cette partie-là qui est un peu compliquée, mais après tout le reste, c'est ou de la descente ou du plat. Moi, je me rappelle l'avoir fait ici, la course. On montait la côte du cimetière que vous devez connaître, vers Feilly, vers Néry, et on redescendait vers Bruxelles. Ça, c'était vraiment sélectif. Maintenant, les temps ont changé parce que l'organisateur, je lui ai proposé, ce qui nécessiterait de ne pas être obligé de passer par des passages à niveau, mais son inconvénient, c'est que maintenant, dans beaucoup de domaines, je ne dis pas que les coureurs ne sont plus courageux, ça les fait reculer devant l'obstacle et ils ne viennent pas s'inscrire. Et on n'aurait pas grand monde. Oui, je regrette parce que, comme je vous disais en introduction, tous les administrés et les citoyens ne peuvent pas bénéficier de la majeure partie qui sont au cœur du village. On est vraiment à l'extrémité ouest de la commune et les trois quarts, puisqu'on fait une partie sur Savoie. Après la pancarte, c'est Savoie-Laumont. Et là, les gens de la commune ne peuvent pas bénéficier du passage. Ça, c'est, je déplore.
Allez, c'est pour l'arrivée, messieurs.
Je suis avec Marco, le responsable de la voiture sécurité. Alors, quel est votre rôle ?
C'est de sécuriser le peloton des cyclistes pour qu'il n'y ait aucune voiture qui les percute, en fait.
Vous ne faites pas que cette course-là ?
Non, je fais pas mal de courses dans l'Oise, en fait. Toutes les grosses courses de l'Oise, je suis dessus et je les sécurise.
C'est difficile comme fonction ?
Ah, c'est pas facile parce qu'on tombe sur une population qui n'est pas très réceptive. Donc on essaye de leur expliquer au maximum de ce qu'on peut faire en fait.
Il y a eu des soucis, des choses à signaler pour l'instant ce dimanche ?
Oh, on a eu quelques soucis, donc on les a gérés nous en interne sur le devant. Et puis le but du jeu, c'est que les cyclistes ne voient pas ces problèmes-là en fait et qu'ils ne les ressentent pas.
Pour expliquer aux auditeurs, vous suivez les cyclistes pendant tout le trajet ?
C'est exactement ça, je fais la voiture pilote en fait, je suis devant et je m'assure de leur sécurité pour pas qu'eux aient de problème.
Vous devez être concentré vraiment tout le temps ?
Exactement, on ne peut pas relâcher la concentration parce qu'en fait les voitures peuvent sortir de n'importe où, d'une petite route, d'un chemin, ou faire demi-tour et revenir face à nous. C'est ce qui est arrivé précédemment sur la course et qu'on a géré.
Vous êtes dans une voiture et il y a votre collègue, lui qui est sur une moto, c'est ça ?
Oui, tout à fait. On est deux, une voiture ouvreuse et une moto. Comme ça, s'il y a des échappés, c'est plus facile de faire passer une moto qu'une voiture.
Vous êtes usé mentalement à la fin de la journée ?
Ah oui, c'est une fatigue à l'intérieur qui est énorme.
Et finalement, vous roulez très peu vite, la même vitesse que les cyclistes finalement ?
Tout à fait, oui. Alors après, on s'adapte en fonction de la vitesse du peloton qu'on sécurise. Si demain on sécurise un peloton que c'est des élites, on va beaucoup plus vite. Si maintenant c'est des écoles de vélo, on s'adapte. Et le but du jeu, c'est que en fait, la sécurité soit optimum.
Vous le jugez comment le parcours de ce dimanche ?
Ah, c'est une course qui est très sélective parce qu'il y a des virages, il y a un faux plat montant et il y a un peu de vent sur le côté, donc c'est pas mal. Et au niveau sécurité, on est nickel puisque pour l'instant on rencontre aucun gros problème majeur.
Allez, tout de suite, c'est bien.
Bonjour, je m'appelle Thomas Becry et je viens de l'ES Gervais-Lila dans le 93. Bah, on a un club qui fait de la compétition, mais aussi on roule pour le plaisir. Et donc, j'ai pas beaucoup l'habitude de courir ici. En général, je fais plutôt les courses en Ile-de-France, donc c'est cool, ça change de courir avec d'autres personnes.
C'est votre première participation au Prix de Saint-Yne ?
Oui, c'est ça. Moi, d'habitude, je cours plutôt près de chez moi, mais là, il n'y avait pas de course, donc je suis venu ici.
Quelle course vous avez fait aujourd'hui ?
Ben, j'ai essayé plusieurs fois, mais le circuit était trop plat pour moi. Donc, en plus, j'ai pas d'équipier. Les grosses équipes, elles ont tout le temps ramené. Oh, ça se joue au sprint et je n'ai pas tenté puisque j'avais plus la force après.
Vous êtes arrivé, vous avez votre classement ?
Non, mais je fais fin de peloton, j'ai pas joué le sprint, donc je pense que je sais pas, on devait être 20-25 dans le peloton, un peu plus. Bah, le parcours était compliqué puisque c'était pas mal de lignes droites et il y avait beaucoup de vent, donc on pouvait pas vraiment sortir. Mais sinon non, il était cool, plutôt plat, il y avait une petite montée, mais ça se passait quand même assez bien. Donc c'était plus propice à un sprint qu'à un homme seul ou une échappée. Ben voilà.
Vous avez roulé à peu près à combien en moyenne de vitesse ce dimanche ?
Là, on a 39 de moyenne sur 1h30.
Qu'est-ce qui vous plaît dans le cyclisme ?
Moi, j'aime bien la persévérance qu'il faut avoir, l'assiduité aussi, la discipline, parce que ça demande beaucoup d'entraînement. Donc moi, c'est ça que j'aime bien avec le dépassement de soi. C'est un sport très compliqué. On est obligé de sortir tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il vente. Moi, ça me plaît. C'est vraiment un sport de combattant et je trouve ça bien.
C'était Yann Barré pour Radio Valois-Mulsien. J'étais en ce dimanche 1er juin dans la commune de Saint-Yne dans l'Oise. J'ai assisté à une course régionale de cyclisme, le Prix de Saint-Yne. Course organisée par le club Compiègne Sport Cyclisme.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Radio Campus, c'est une radio libre. Radio Campus, c'est sur le 106,6 ou sur campuslille.com. Radio Campus, c'est une liberté totale sur la bande FM. Et ben, si t'es bat, si t'es in, rejoins-nous sur les ondes.
Mon triste cœur bave à la poupe. Mon cœur flanqué d'épines sales, mon triste cœur bave à la poupe. Et pousse un soupir général, un vent vénéneux y défoule. Ces petites épines en rafale, mon triste cœur bave à la poupe. mon cœur flanqué d'épines sales à mon cœur, le venin en poupe. Son rire hisse drapeau noir mon cœur, le venin en poupe. Ses dents sont vénéneuses et sales, et câline des cœurs les découpe. Mon cœur flanqué d'épines sales à mon cœur, le venin en poupe. Son rire hisse drapeau noir. C'est tachycarde mon cœur volé en la poutre. Et trace un drôle de cardiogramme qui fait des volutes vers la voûte céleste. Et des chutes verticales mon cœur volé en la poutre. Et il s'y balance et tachycarde mon cœur de pitrance les foules. Il n'y circule qu'alcool métal à mon cœur de pitrance les foules. Dans son costume nicotinal, esquisse pantomime double. Il trouve son geste original à mon cœur de pitrince les foules. Il n'y circule qu'alcool métal. Mon triste cœur bave à la poupe et pousse un soupir général, un vent vénéneux et des foules. Ces petites épines en rafale à mon triste cœur bave à la poupe. Mon cœur flanqué d'épines sales à mon cœur, le venin en poupe. Son rire hisse drapeau noir mon cœur, le venin en poupe. Ses dents sont vénéneuses et sales, les câlines des cœurs les découpe. Mon cœur flanqué d'épines sales, mon cœur le venin en poupe. Il n'y circule qu'alcool métal.
Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos esperen el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad, luchemos por ella con fe y valor. Alta la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. Alta la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. En pie, pueblo obrero, a la batalla, hay que derrumbar a la reacción. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la Confederación. La, 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 la.
La 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 Antoine Sénéchal a 25 ans, il est originaire de Tinques, dans le Pas-de-Calais, entre Saint-Paul-sur-Ternoise et Arras. Atteint d'une cardiomyopathie hypertrophique, il a subi une greffe du cœur en 2018. Aujourd'hui, il tient à sensibiliser au don d'organes et il témoigne dans un livre qu'il vient de sortir, « La vie n'est pas un jeu ». Il nous en dit plus sur sa maladie et son parcours.
Donc, avant cette greffe, j'étais atteint d'une cardiomyopathie hypertrophique. Donc, c'est un épaississement interne du cœur qui s'est déclaré à l'âge de 11 ans, qui est une maladie héréditaire. Et puis, cette maladie, elle a progressé avec la croissance. Donc, de l'âge de 11 ans jusqu'à l'âge de 17 ans et demi au moment où j'ai été greffé. Et entre-temps, au moment où ça a commencé vraiment à évoluer fortement, ils ont décidé de me poser un défibrillateur interne en prévention. Mais ils se sont vite rendu compte que le défibrillateur, il était là en prévention, mais que malgré tout, s'il y avait mort subite ou crise cardiaque, etc., le défibrillateur, malheureusement, il aurait pas forcément servi. Donc la seule opportunité, la seule solution pour continuer à vivre, on va dire, c'était de proposer la greffe cardiaque et de l'inscription pour la greffe. Donc ils ont commencé à m'en parler début 2018. Et puis ensuite, j'ai passé différents bilans psychologiques, médicaux, de la tête aux pieds, j'ai été examiné. Et puis une fois que tout était OK, une fois que tout était, les paramètres médicaux et psychologiques étaient validés, à ce moment-là, j'ai été inscrit sur liste en juillet 2018. Et puis en fait, cette inscription sur liste, comme j'avais 17 ans et demi, j'étais inscrit sur liste pédiatrique. Et cette liste pédiatrique m'a donné priorité en fait sur la greffe. Ce qui a fait qu'en 3 semaines de temps, j'ai pu être appelé pour la greffe. Donc j'ai été appelé le 1er août 2018. Et puis après, c'est suivi un temps de déjà une semaine en chambre stérile pour être surveillé. Et puis après, une quinzaine de jours en chambre, on va dire, standard. Continuer aussi à être surveillé et voir s'il n'y avait pas de soucis et de problématiques derrière.
Parce que parfois, c'est beaucoup plus long pour avoir cette greffe.
Oui,
ça a été rapide. Mais...
Parfois, des fois, ça met beaucoup plus longtemps. Une personne, en moyenne, attend entre 6 mois et 2 ans pour pouvoir se faire greffer. Bien sûr, en fonction de la gravité de son cas, c'est sûr que les personnes qui, en 48 heures, doivent être greffées, tout est fait, tout est mis en œuvre pour qu'en 48 heures, puissent être greffés. Parce que malheureusement, s'il y a cette question de 48 heures, c'est parce qu'au bout de 48 heures, malheureusement, ils seront morts s'ils ne sont pas greffés. Donc c'est aussi comme ça que le grade sur la liste d'attente est mis en place.
Vous l'aviez dit, c'est héréditaire, donc la cardiomyopathie hypertrophique. Et c'est votre papa qui avait cette maladie-là aussi.
C'est ça. Il avait exactement la même maladie, sauf que lui, ça s'est épaissi seulement sur quelques petites parois, petits endroits, on va dire, de l'intérieur du cœur, ce qui lui a permis de bénéficier de ce qu'ils appellent l'alcoolisation septale. Donc ils viennent brûler en fait l'intérieur du cœur pour désépaissir ces parties trop épaisses. Sauf que quand ils brûlent, ils créent des mini-infractus, et en fait, quand c'est 1, 2, 3, 4 mini-infractus, on peut supporter. Mais moi, le cœur était tellement de manière importante, épaisse, surtout l'intérieur du cœur, que le nombre d'infractus aurait été trop important. La greffe était plus bénéfique que l'alcoolisation septale, en fait.
Et aujourd'hui, comment ça va? Vous pouvez faire du sport comme tout le monde ou vous avez encore quelques séquelles? Comment ça se passe?
Oui, je peux reprendre le sport normalement. Alors, j'avoue que c'est pas forcément évident, puisque pendant ces temps, en fait, du temps où la maladie s'est déclarée jusqu'à le temps que je sois greffé, j'ai pas pu faire de sport du tout. Mais sinon, la greffe me contre-indique pas du tout au sport. Et d'ailleurs, j'ai participé dernièrement aux ce qu'ils appellent les Jeux nationaux des transplantés. Donc, c'est des jeux qui sont dédiés spécialement aux personnes qui sont transplantées pour vraiment redonner envie aux personnes de faire du sport et contribuer en fait à en motiver d'autres.
Et donc aujourd'hui, à côté de votre métier de prof de cuisine en lycée, vous avez décidé aussi de passer beaucoup de temps pour sensibiliser les personnes au don d'organes. Donc vous êtes président de l'association donc de l'ADOT 59 qui est dans la région, donc sur Lille. Elle sert à quoi cette association? Surtout, c'est quoi son but?
En fait, dans chaque département, il y a une ADOT différente. Donc moi, je suis président pour le pour le 59. Et donc dans tout le 59, on intervient, on fait des sensibilisations diverses et variées. On mobilise aussi les communes à devenir villes ou villages ambassadeurs du don d'organes pour engager les communes dans la communication. Et puis après, on intervient dans les collèges, dans les écoles, dans les lycées. On essaie d'intervenir partout là où on nous demande, les forums santé, les différents événements pour qu'il y ait un maximum de monde qui puisse recevoir l'information. Et puis je suis aussi représentant pour le don d'organes pour l'association Cardiogreffe Hauts-de-France dans le Pas-de-Calais. Et donc je mets à contribution mon parcours de greffé cardiaque au profit du don d'organes pour aussi apporter mon témoignage de greffé, montrer que la greffe ça marche.
Et vous apportez aussi votre témoignage à travers votre livre donc, qui vient de sortir, ça s'appelle « La vie n'est pas un jeu ». Vous l'aviez déjà écrit depuis un petit moment. À quel moment vous avez décidé de le sortir et pourquoi ?
J'avais déjà réfléchi au moment de ma greffe. Après ma greffe, je m'étais déjà mis en tête qu'un jour j'écrirais un livre. J'avais déjà, peu de temps après ma greffe, commencé à écrire des petites parties, des petites choses, des petits éléments que je souhaitais mettre dans ce livre. Et puis voilà, ça s'est fait, on va dire, un peu progressivement. J'ai arrêté parce que le temps ne me le permettait pas. J'ai repris, toutes des périodes comme ça où j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai repris. Et puis là, en septembre 2024, du coup, il y a un événement. Enfin, mon père s'est suicidé, donc ça a relancé un peu l'écriture de ce livre. Et donc, depuis septembre, fin septembre, début octobre 2024, c'est là où j'ai vraiment repris l'écriture de ce livre et où j'ai remis un peu, on va dire, toutes les parties que j'avais écrites bout à bout pour mener à bien ce livre et continuer cette écriture.
Oui, donc pour évoquer votre vécu en tant que greffé et votre maladie, et puis aussi parler un peu de votre papa et de sa bipolarité, c'est ça ?
C'est ça. En fait, il y a plusieurs... Alors le fil conducteur, c'est montrer en fait que... D'où le titre de ce livre, en fait, la vie n'est pas un jeu, c'est de montrer que la vie ne tient qu'à un fil et de manière... sur différentes paramètres qui sont liés forcément à ma vie et ce qui m'entoure. Et donc oui, je parle de la bipolarité de mon papa, je parle de ma greffe, je parle aussi de ma dyslexie et de différentes complexités que l'école puisse avoir avec la dyslexie et l'évolution, on va dire, aussi de la dyslexie et tout, différents paramètres comme ça de ma vie, et ce qui permet en fait à pas mal de monde de se retrouver en fait dans ce livre.
Avec une belle illustration, on peut le dire.
Oui,
en page de couverture, c'est votre cousine qui a fait ça ?
C'est ça, c'est ma cousine, donc Ségolène Cassoret, qui est une artiste qui, surtout à Arras et ses environs, qui a contribué à ce livre en me proposant cette illustration de page de couverture.
Comment on peut décrire cette illustration ? C'est vous ?
Oui, c'est moi avec le cœur dans ses bras, puisque le cœur, forcément, parce que je suis greffé cardiaque, et puis je tiens ce cœur vraiment pour dire que je tiens la vie à ce cœur.
Pour terminer, donc c'est l'occasion aussi de témoigner, donc c'est ce que vous faites en ce moment à notre micro, et puis de partager cette leçon de vie, de partager ce message aussi. Vous aviez quelques chiffres, parce que finalement on est beaucoup, ou en tout cas une bonne partie, à penser au don d'organes, mais à ne pas passer à l'acte, c'est-à-dire à en parler à ses proches et faire cette fameuse carte. Est-ce qu'elle existe encore ? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on souhaite... procéder au don d'organes si un jour on n'est plus là.
Il n'y a plus cette question de carte. Avant, il y avait une carte de donneur. Bon, maintenant, elle a été un petit peu transformée en carte d'ambassadeur. Mais sa carte seule ne suffit pas. Il faut vraiment que derrière cette carte, il y ait une communication qui soit établie avec son entourage. Et le vrai message, c'est entre proches, on se le dit. C'est vraiment donner sa position et en parler autour de soi, pour qu'il y ait un maximum de monde qui soit informé sur le sujet. Donc la loi, elle repose sur trois grands principes, qui est la gratuité, on ne paye pas pour recevoir un organe ou pour le donner. Ensuite, l'anonymat. On ne sait pas, moi personnellement, je ne sais pas de qui vient mon cœur. Et ensuite, ce consentement présumé, donc vraiment le ressenti de la personne défunte. C'est vraiment la mission des infirmiers de coordination quand il y a un cas de décelé de cette mort encéphalique, donc le cerveau qui ne réagit plus, qui va mener jusqu'au don d'organe. Quand il y a un cas comme ça qui est décelé par les infirmiers de coordination, ils vont essayer de rechercher vraiment le consentement, ce que pensait réellement la personne au moment de son décès. Donc, d'où l'intérêt d'en avoir parlé avant, puisqu'en fait, forcément, la personne qui est décédée, si l'entourage ne le sait pas, ça va être compliqué pour savoir ce que pensait la personne. Donc voilà, faut vraiment en parler, faut vraiment donner sa position à ses proches. Et voilà, si le message à retenir, c'est entre proches, on se le dit.
Et donc, vous aviez des chiffres, parce que finalement, on sait à peu près combien de personnes pensent au don d'organes, mais n'en parlent pas à leurs proches, et parfois, il est trop tard.
C'est ça, en fait, il y a 80% de personnes qui se disent pour, qui au fond d'eux, en fait, voilà, ils pensent, on a déjà entendu parler ou autre, et qui, voilà, qui sont pas forcément contre le don d'organes. Mais ce qui est dommage, c'est que ces personnes-là, elles le disent pas à leurs proches, et en fait, au moment où ça arrive, ben, il y a 45% de personnes qui refusent. Si on inverse un peu le chiffre, ça fait 55% de personnes qui acceptent, alors que, voilà, que je viens de... Voilà, normalement, il devrait y avoir 80% de personnes qui acceptent. Donc, ça prouve bien qu'il y a un problème dans la communication autour de soi et qu'il faut vraiment communiquer, puisque voilà, il y a 20 000 aussi personnes qui attendent aujourd'hui, hein, plus de 20 000 qui attendent un organe, voilà, tout organe confondu. Et il y a 3 personnes qui décèdent chaque jour, faute d'organes, donc voilà, 2 à 3 en moyenne. Donc ça veut dire que ce soir, malheureusement, il y aura encore 3 personnes qui vont décéder faute d'organes. C'est un peu tous les chiffres qu'on peut retenir. Il faut en parler pour éviter qu'il y ait autant de morts. On estime que s'il y a 1% de refus qui diminue, il y a environ 100 greffes qui peuvent se faire de manière supplémentaire. Donc aujourd'hui, on a 6000 greffes par an et on espère dépasser les 6000 cette année.
Et si on a des questions, on peut vous contacter ou contacter l'association ADOT 59.
Oui, oui, il n'y a pas de souci. On répond aux questions et puis voilà, il y a aucun tabou. Nous, on répond à toutes les questions qui puissent venir.
Et vous pourrez donc vous procurer le livre « La vie n'est pas un jeu » d'Antoine Sénéchal directement sur Internet. Il sera en dédicace le 30 octobre au Furet du Nord de Douai et le 15 novembre au Furet du Nord de Béthune. Ce sujet a été réalisé par Banquise FM. Interview Louise Petit, réalisation Jean-Baptiste Cotteret.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
pas besoin de vous pour ranger mes vêtements. Partez, vous m'encombrez, dit la vieille en sautant, pieds joints sur sa valise. On aurait dit Popeye, elle avait encore la souplesse des abeilles. Et d'un pas décidé vers la gare sans Lazare, tandis qu'on faisait semblant de pleurer son départ. Elle s'en allait trottant, son bagage à la main, avec deux ou trois pauses pour se tenir les reins. J'ai pas besoin de vous, dit-elle au contrôleur. Laissez-moi ma valise, j'en ai pour un quart d'heure. L'hospice est en banlieue, on dit que c'est un château où les vieux jouent au Scrabble et aux petits chevaux. Moi, j'ai horreur de ça, comprenez-vous, monsieur. Je n'aime que les westerns avec plein de coups de feu. J'ai vu 14 fois l'infernal chevaucher. Je vous le raconterai bien, mais nous sommes arrivés. J'ai pas besoin de vous, dit-elle à l'infirmière, pour déplier mes draps, laissez-moi, j'ai affaire. Alors de sa valise, à l'abri des regards, elle sortit 20 bouteilles d'un célèbre pinard, descendit au salon où les vieux et les vieilles jouaient aux petits chevaux en se grattant l'oreille. Bonsoir messieurs, mesdames, je m'appelle Fanchon. L'un d'entre vous n'aurait-il pas un tire-bouchon ? J'ai pas besoin de vous, disait-elle au médecin, en élevant vers lui son troisième verre de vin. Tandis que les vieillards, autour de la pendule, chantaient à quatre voix la grosse bita du dul. Et l'on vit ce spectacle ô combien ravissant, de 80 gâteux quittant l'établissement, afin de ratisser les hospices du pays, arrachant à la mort les moribonds surpris. J'ai pas besoin de vous, disait-elle au curé, qui sur le lit d'un vieux s'esquintait à prier. Vous voyez bien que ce cadavre n'est pas mort, s'il ne respire plus, par contre il bande encore. Un petit coup de branlette leur mettra sur ses pattes, comme un coup de manivelle sur une vieille juve à quatre. Le prêtre révulsé tombait les bras en croix. Il respirait encore, mais il ne bandait pas. J'ai pas besoin de vous, répétaient tous les vieux, chaque fois qu'un député voulait s'occuper d'eux. Car vous n'avez pas su vous occuper de nous, du temps où nous avions encore confiance en vous. Tous les moyens sont bons pour gagner la coupole. Si les morpions votaient, vous auriez la vérole. En tant qu'improductif, nous ne produirons pas un imbécile de plus à la tête de l'État. J'ai pas besoin de vous, dit-elle au nécrophage, qui l'a poussé vers le ghetto du troisième âge. Saloperie technocrate qui inventa cette formule, du haut de mon mépris, saloperie, je t'encule. Oh ! Tiens, c'est la première fois que je dis un gros mot. Et tout en se versant un petit verre de Porto, elle fit un bras d'honneur, on aurait dit Popeye. Elle avait encore la souplesse des abeilles.
Prendre le petit déjeuner en communauté et pour 0 euro, c'est l'initiative de la branche lilloise de l'association Entourage qui lutte contre l'isolement et la précarité sociale. Tous les mardis matins de 8h30 à 10h30, l'association ouvre ses portes à tous ceux qui souhaitent partager un petit déjeuner. Lauriane et Juliette, représentantes et bénévoles d'Entourage à Lille, discutent avec nous de l'événement hebdomadaire.
Donc du coup, les petits déjeuners solidaires, ils existent depuis 2021. Ils ont été créés par le comité de la rue. En gros, nous, dans notre association, on a un comité de la rue. C'est des gens qui ont vécu la rue ou qui vivent encore la rue. Et du coup, ils ont eu cette idée de faire le petit-déj parce que justement, le mardi matin, la Belge s'est fermée. Et la Belge, c'est un centre, enfin un accueil de jour où les gens vont souvent, passent la journée ou pour se restaurer, boire du café. Et comme c'est fermé le mardi matin, bah, il n'y a pas vraiment de service approprié pour faire ça. Donc du coup, ils ont eu l'idée de faire ce petit-déj de 8h30 à 10h30 où en gros, les gens qui n'ont pas un service peuvent le trouver chez Entourage.
L'idée, c'est vraiment que les gens viennent. Ils apportent rien. Nous, on ramène du pain. Il y a des bénévoles. Enfin, l'événement tourne exclusivement avec des bénévoles qui, du coup, s'occupent d'aller chercher du pain, du café, toutes ces petites denrées alimentaires. Donc, on a largement de quoi se régaler. Et du coup, les gens ont juste à venir, à se poser. Et l'idée, c'est que ce soit le plus mixte socialement, on va dire. Donc, on peut croiser autant des gens, comme disait Juliette, qui d'habitude fréquentent des accueils de jour, qui viennent pour chercher un service, que des gens qui ont envie de discuter, de passer un moment. Et il y en a pour qui ça devient vraiment bah, une habitude de venir. Et c'est vraiment le rendez-vous hebdomadaire du mardi matin où on vient voir ses potes, quoi, en gros. Et au fur et à mesure, c'est ça. On vient pour profiter du moment, quoi. Et c'est aussi un truc super important du comité de la rue chez Entourage. C'est vraiment un organe de décision comme le conseil d'administration ou le conseil de direction. C'est vraiment genre la boussole éthique d'Entourage pour s'assurer bah, que ce qu'on fait, ça a du sens. Et c'est vraiment à l'initiative de ces personnes-là que ça a été créé, le petit-déj.
À qui est accessible le petit déjeuner ?
Tout le monde peut venir. C'est accessible autant aux personnes qui en ont besoin, les personnes en précarité, les riverains, les voisins, les gens en entreprise, tout le monde. Tout le monde peut venir. C'est absolument ouvert à tout le monde.
On voit des gens vachement variés quand même au petit-déj. Et après, c'est entre guillemets, du coup, à Entourage, on propose aussi d'autres événements. On fait des ateliers cuisine, des trucs plus culturels, des soirées jeux de société ou quoi. Ça dépend un peu de la programmation du moment. Mais le petit déjeuner, c'est vraiment l'événement vitrine dans le sens où c'est le plus accessible pour tous. Et c'est là où on voit le plus de variété, même si on a quand même beaucoup de gens en précarité ou en grande précarité qui viennent au petit déj parce que, comme on l'a dit, ça remplit ce... cet espace vide de il y a pas d'accueil de jour ouvert à ce moment-là et où du coup les gens c'est un prétexte entre guillemets le fait que on distribue de la nourriture du café donc quand on fait des maraudes ou quoi qu'on va aux accueils de jour on vend un petit peu cet événement de vous pourrez prendre un café du pain etc forcément la nourriture pour les gens en grande précarité ça reste quand même une première raison de venir mais du coup on transforme cette raison en prétexte de créer du lien et de la discussion. Et ce qui fait que, au final, on retrouve des étudiants, des salariés d'entreprise. Enfin, souvent, on a des entreprises qui viennent dans le cadre de leur travail en mode, OK, on y va entre salariés et on va faire du lien avec les gens.
Pour accéder à ce petit déjeuner, est-ce qu'il faut payer 1 euro symbolique ou quelque chose ?
Non, rien du tout aussi. C'est vraiment ouvert. Enfin, les portes, elles sont ouvertes. Les gens, ils rentrent, ils partent à l'heure qu'ils veulent. Enfin, à l'heure qu'ils veulent, il y a des horaires. Mais enfin, tout le monde est le bienvenu. Il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit. Après, il y a des gens, des fois, qui ont l'initiative de ramener... Il y a un bénévole qui a ramené souvent des fruits, par exemple, le matin, mais c'est pas du tout obligatoire. Les gens, ils peuvent venir juste avec eux-mêmes.
Et l'idée du petit-déj, c'est que les gens, ils peuvent venir 5 minutes. Il y en a très bien qui vont juste venir pour boire leur café et qui n'ont pas envie de parler aux gens. Et c'est OK, ils vont continuer leur vie. Et après, on voit qu'il y a des gens qui, petit à petit, ils viennent, ils passent de plus en plus de temps, etc., mais... Chaque fois, c'est complètement gratuit et il n'y a rien à ramener.
Est-ce que c'est, on va dire que c'est accessible à tous les régimes alimentaires ?
De toute façon, il n'y a pas de viande. Enfin, ou des fois, il y a un de nos bénévoles ambassadeurs qui a des sandwichs Laurent à distribuer, mais ça, du coup, ça dépend de ce qu'il a récupéré. Mais en fait, il n'y a pas de salé au petit déjeuner. Donc, c'est à part les gens qui sont intolérants au gluten.
C'est vraiment en mode... self-service, les gens prennent leur café, leur thé, des fois on passe un petit peu pour leur proposer, parce qu'il y en a qui sont un peu timides, on va dire, qui vont pas oser, mais du coup c'est vraiment les gens prennent ce qu'ils veulent.
Nous sommes toujours en train de parler de l'association Entourage, une association dont la branche lilloise organise des petits déjeuners solidaires tous les mardis matins afin de lutter contre l'isolement social et la précarité alimentaire. Des petits déjeuners pour se restaurer et créer du lien, mais également pour bénéficier d'autres services, comme en témoignent Lauriane et Juliette, bénévoles de l'association.
après aussi au petit-déj, enfin on l'a pas dit, mais il y a des prestations des fois. On avait une coiffeuse qui venait. À un moment, on a eu un coiffeur. On a une assistante sociale qui vient toutes les semaines. En gros, il y a des gens qui viennent sur place offrir un service gratuit aussi aux gens qui sont là, s'ils veulent. Donc nous, on est ouverts. Les gens, s'ils veulent venir proposer quelque chose gratuitement ou se faire connaître ou je sais pas, ils sont totalement les bienvenus aussi.
Mais ouais, le petit déj, on a un peu envie que ce soit un endroit qui vive, ouais. Et que ce soit pas juste justement ce truc de service alimentaire, de on vient manger, mais des fois il y a des trucs qui changent un peu de l'ordinaire, comme disait Juliette, une fois il y a une association qui est venue, il y a des coiffeurs, des gens qui rendent des services, etc. Et on est vachement en recherche de ça, justement, d'associations qui ont envie justement de participer à ça pour créer, on va dire, un plus gros événement et faire un peu une sorte de place des associations où ouais. Chacun peut venir pour proposer quelque chose.
Et du coup, est-ce que vous avez des événements, on va dire, avec entourage qui vont bientôt se faire ou dans le cadre du petit déjeuner ou autre ?
En général, déjà, le petit déjeuner, c'est tous les mardis matins. Après, on a ce qu'on appelle les événements réguliers, récurrents. On a les soirées jeux de société où c'est deux fois par mois. Des ateliers cuisine aussi où c'est deux fois par mois. Et après, de manière plus ponctuelle aussi, là, bientôt, on va avoir une visite de l'aéronef. Et avec l'été aussi, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de concerts, open air, etc., qui sont organisés. Et du coup, on va essayer de plus se rendre aussi à des concerts qui sont organisés par l'aéronef en plein air, qui s'appelle Un air d'été. Où ça aussi, c'est des événements qui sont vachement propices aux liens, parce qu'il y a le concert en plein air, il y a plein d'activités, etc. Donc il y a ça aussi à venir. Et pour
l'escalade aussi.
L'escalade aussi, qu'on a régulièrement.
Dans la salle où a lieu le petit déjeuner, une légère odeur de café se fait sentir, accompagnée de brioches, pain, confitures et viennoiseries. Nous avons eu l'occasion d'interroger certains adhérents sur leur ressenti vis-à-vis de l'initiative.
Alors, je m'appelle Joriane, je viens en tourage tous les mardis matin. J'en loupe aucun parce que pour moi, c'est extrêmement important. C'est ce qui me sauve dans ma triste vie parce que j'ai un parcours de vie extrêmement difficile à tout point de vue. Je suis polyhandicapé, bon, j'aime pas dire ça, mais c'est la vérité, mentale et physique. Je n'ai plus aucune famille du tout. Vraiment, je suis complètement dans une solitude à couper au couteau. C'est absolument épouvantable. Et grâce à cette association-là, j'ai la sensation d'avoir un remplacement familial parce que les bénévoles nous suivent dans nos vies, nous posent des questions sur ce qu'on vit, la fois d'après se souviennent de ce qu'on a dit, etc. Donc il y a un très fort lien qui se crée. Et pour moi, de toute façon, je n'ai pas le choix. C'est ça ou rien du tout ou aucun lien social. Donc je n'ai pas le choix. Donc je suis bien obligé de venir en entourage. Mais j'adore parce que je fais des tas de belles rencontres. En fait, je suis venu ici grâce au bouche à oreille parce que j'ai commencé par aller au restaurant du cœur. Et c'est là qu'on m'a parlé de l'association Entourage. Mais au tout début, je connaissais aucune association et c'est vraiment par le plus grand des hasards. J'étais assise sur un parc dans Lille et quelqu'un m'a parlé comme ça, dans le plus grand des hasards d'une association. J'y suis allée et c'est là qu'on m'a dit, il y a aussi l'association Entourage qui propose des petits déjeuners le mardi matin. Et donc, si je n'avais pas rencontré cette personne, eh bien, peut-être que je ne serais pas au courant de cette belle association. Mais le hasard a fait que j'ai été au courant. Parce qu'il faut savoir que personne n'en parle de ces associations. Même les assistantes sociales qui essayent de tout faire pour nous et de nous alléger la vie, ou dans les mairies, ou partout, personne ne nous parle des associations, et notamment de l'association Entourage. Moi, j'ai découvert ça il y a un an et demi. Et j'étais au courant de rien du tout, alors que j'étais dans la solitude à couper au couteau depuis une dizaine d'années. Ma condition de vie est telle qu'elle est insupportable. Donc maintenant, c'est beaucoup plus supportable. Chaque jour, en se réveillant le matin, on sait qu'on est attendu, qu'on est espéré, que beaucoup de gens nous aiment bien. Et quand on n'a plus du tout de famille, ça fait du bien.
Mais du coup, vous avez réussi à trouver peut-être des amis, vraiment un entourage fidèle ici.
Ah oui, alors ce que j'apprécie avec l'association Entourage, c'est leur slogan. C'est Entourage, le réseau de ceux qui n'en ont pas. Et alors moi, ça me convient bien parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que je suis carrément dans ce slogan. car pour couronner le tout, pour ajouter aux difficultés de ma vie, il se trouve que je suis complètement babache devant un téléphone portable et devant les techniques modernes. Donc je suis coupé du monde parce que je suis incapable de me servir d'un ordinateur ou d'un téléphone portable, tellement c'est compliqué, je ne suis pas né avec. Et justement, à Entourage, eh ben, on a tout un réseau qui se crée et on n'a pas besoin de connaître ces vilaines techniques modernes. Donc moi, ça m'arrange bien, c'est mon réseau. Hein. On fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Et donc, grâce à ça, bah, je fais des très belles rencontres de tout ordre.
Je m'appelle François, ou Chat Cadeau, comme on dit, ou Monsieur le Chat.
Ok, et du coup, est-ce que vous pouvez me dire, ça fait combien de temps que vous venez à Entourage ?
Ouais, je vais vous dire, je suis dehors depuis juillet l'année dernière. Hein. Donc ici, j'ai commencé en octobre-décembre, pendant les périodes d'hiver, et tous les mardis, bah, je viens, voilà. Je viens pour dire bonjour, discuter avec les gens. Bah, j'ai même, pour vous dire une intox, je vais être en bénévole. Parce que moi, j'ai quelques amis qui viennent travailler ici, et qui fait partie comme bénévole à la Beige. Donc il m'a rencontré, il m'a dit bah, « Pourquoi tu viens pas de temps en temps au petit déjeuner ?» Bah voilà, c'est ce que j'ai fait, je suis venu. Voilà. Et depuis, bah, j'en arrête pas de venir. On vient avec le chat ici, présent, à moi genoux, qui se balade de temps en temps. Alors au début, c'était très dur, parce que j'avais 25 kilos avec moi. J'avais un sac, plusieurs sacs, un caddie rempli. Maintenant, petit à petit, bon, j'ai pu réduire parce que en fait, je vis dans une tente et on m'a permis de vivre là-bas à la citadelle.
Et du coup, le fait de venir ici, est-ce que ça vous a vraiment permis de rencontrer des gens, développer un entourage ?
Bah, la preuve, c'est comme ça que j'ai pu me permettre de rencontrer aussi des personnes qui travaillent à la cloche. Je rencontre les gens, comme d'habitude, je dis bonjour et puis on fraternise.
Vous pouvez retrouver le petit déjeuner solidaire tous les mardis matins de 8h30 à 10h30 au 23 passage rue du Marché à Lille. Vous pouvez également retrouver toutes les informations et projets de Entourage sur leur application Entourage ou sur leur page Instagram entourage-du-bas-Hauts-de-France.
Un reportage de Aurore Henny pour Radio Boomerang.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Radio Campus 106,6.
On se dit parfois qu'on s'aime, très cher concitoyen, très cher concitoyenne. On se dit que tout va bien, on se dit parfois qu'on s'aime. On veut du boulot, on veut manger, on veut vivre nous aussi. Des milliers, des millions de kilomètres et de bateaux, de traversées et de voyages. On rêve liberté, d'égalité, fraternité et de vérité. On rêve et demain peut-être. On n'a pas demandé à venir au monde, on n'a pas demandé à naître à Paris. La vie a un prix, elle n'a pas de prix. J'ai pris le pari de partir d'ici sans savoir ce qui nous attend. On attend l'avenir, on le voit venir, c'est pas trop demandé. On veut du bonheur, liberté, égalité. Malheur, très cher concitoyen, très cher concitoyen. On se dit que tout va bien, on se dit parfois qu'on s'aime. Très cher concitoyen, très cher concitoyen. On se dit que tout va bien, on se dit parfois. En liberté, que ce soit en métro, à cheval ou à pied, on prendra la Bastille sans oublier de faire les couplets de la Marseillaise. On fera tomber des arbres, nos oubliettes, on fera tomber les pommes et la pluie aussi, on fera tomber le ciel sur nos têtes joyeuses, il n'y aura plus de frontières dans tous les pays. Nous avons la joie de découvrir tous ensemble
l'élu du peuple dans le miroir de vos yeux.
La raison du plus fort emportée sur l'illusion.
La magie.
magie à opérer en toute égalité.
Les maîtres du monde ont tout oublié.
C'est la cour des miracles. La génie et le montant se sont abattus
sur les trois montagnes symboliques.
La liberté, l'égalité et la fraternité.
Liberté, égalité, fraternité.
Citoyens, très chers concitoyens, on se dit que tout va bien, on se dit parfois je t'aime. Très chers concitoyens, très chers concitoyens, on se dit que tout va bien, on se dit parfois qu'on s'aime. Très chers.